Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente.
Je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève.
Ah, je ne connais pas celui-là.
C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique.
Wow!
Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellet, Valérie Blais, Gazeline. Le tout en collaboration avec Québécois.
Je vais en prendre deux bouteilles.
Oui, mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com.
60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à tous nos auditeurs, vous écoutez la photo média sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Ce soir à l'émission, nous avons Étienne Tardy-Paradis, Catherine Boucher ainsi qu'Édouard Germain, trois de nos nouvelles recrues. Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Nous avons aussi Tessie Jean-Paul qui se fait discrète dans le studio. Elle nous écoute et elle va peut-être participer aux discussions, qui sait. Ce soir, nous avons un sujet assez enflammé. On va parler des relations tendues entre l'Allemagne et la Turquie. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va vous faire un petit tour d'horizon avec Catherine Boucher. Catherine, qu'est-ce qui se passe en Turquie et en Allemagne en ce moment?
Bon, je vais essayer de rendre ça simple, même si c'est pas quelque chose de simple, parce qu'on sait les relations diplomatiques, je pense que ce n'est jamais une chose qui est facile à expliquer, mais bon, d'après mes lectures, je vais essayer de rendre ça digeste pour toutes et tous. Donc voilà donc ce que j'ai trouvé par rapport à la situation. D'abord, je pense qu'il faut commencer par savoir que la Turquie et l'Allemagne sont liées de plusieurs façons, dont deux qui sont, je pense, un peu plus importantes à savoir. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que l'Allemagne accueille la plus grande diaspora turque du monde. Selon les chiffres que j'ai trouvés, c'est environ 3 millions de Turcs qui vivent en Allemagne. Outre ce fait-là, il faut comprendre aussi que les deux pays sont tous deux membres de l'OTAN. Je tiens à mentionner que l'OTAN, c'est une organisation qui a pour but d'assurer la liberté et la sécurité des membres de l'organisation, soit par des moyens politiques et ou militaires, selon les besoins.
Oui, c'était une organisation qui avait été créée en réponse là, au bloc soviétique, on s'en rappelle. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on en est arrivé à un conflit entre deux forces qui sont en théorie alliées, là?
Oui. Donc, comme tu l'as mentionné, on pourrait retracer l'histoire de l'Allemagne et de la Turquie comme dans leurs relations diplomatiques depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant, pour comprendre en fait pourquoi on est arrivé aux relations actuelles. Mais ça serait sûrement vraiment très long. Donc, pour les besoins de la cause, on va remonter à juillet 2016. Donc, dans la nuit du 15 au 16, il y a eu une tentative de coup d'État par le président Erdogan. dans le fond, contre, pardon, le président Erdogan. Évidemment, cette tentative de coup d'État, comme dans la plupart des pays, elle a divisé le peuple turc et la tension que ça a créée s'est répercutée chez les Turcs allemands. D'ailleurs, au lendemain du putsch raté, des milliers de Turcs pro-Erdogan se sont rendus à l'ambassade turque à Berlin pour manifester leur soutien au président. Ceux qui s'opposent au pouvoir actuel, eux, sont minoritaires et ont été la cible d'harcèlement, entre autres sur les médias sociaux. Puis, il faut se rappeler aussi qu'en novembre 2015, le président Erdogan avait reçu 59,7% des votes de la part des Turcs allemands, soit 10 de plus que la moyenne en Turquie. Donc, il bénéficie vraiment d'un appui de la part des Turcs allemands. Depuis juillet, donc, les tensions sont vraiment vives entre les Turcs allemands, mais également entre les deux pays. Ensuite, c'est au mois de février que les choses se sont vraiment corsées quand il y a un journaliste allemand, Denis Yücel, je suis désolée si je massacre un petit peu son nom.
C'est pas grave.
qui est correspondant pour le journal allemand Die Welt, qui a été arrêté en Turquie et accusé de propagande terroriste après avoir publié le contenu de courriels qui ont mis un petit peu dans l'eau chaude certains proches du président. Évidemment, l'Allemagne a dénoncé la situation, mais n'a pas pu réellement agir en sol turc. Et finalement, de manière plus récente, le conflit a pris vraiment une toute autre ampleur. En fait, ça a débuté au début du mois de mars quand deux villes allemandes, Cologne et Gaggenau, ont annulé des rassemblements pro-Erdogan. Les municipalités avaient évoqué des problèmes de capacité d'accueil pour se justifier. En fait, il faut comprendre que les rassemblements devaient promouvoir le référendum turc qui aura lieu dans quelques jours, le 16 avril. À l'occasion de ce référendum-là, les Turcs seront appelés à se prononcer sur l'élargissement des pouvoirs du président.
Tiens donc, ça me fait penser à pas mal d'autres présidents qui essayent d'élargir leurs pouvoirs.
Ah oui? Je vois pas de qui tu parles. Et donc, le lendemain de ces annulations-là, la Turquie a accusé l'Allemagne de soutenir le clan du non, donc de défavoriser l'élargissement des pouvoirs du président. Angela Merkel, la chancelière allemande, avait alors soutenu que dans le système fédéré qu'est l'Allemagne, c'est du ressort des villes d'organiser des événements et donc ça n'avait aucun rapport avec leur position politique. Puis, samedi le 4 mars, Merkel s'est entretenue avec le premier ministre turc pour essayer de calmer un peu la situation. La rencontre s'est faite un peu à huis clos, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on sait que les deux parties ont gardé leur position, mais que ça s'était plutôt bien passé. Le lendemain de cette même rencontre, le président turc a récidivé en qualifiant de pratiques nazies les politiques allemandes. Évidemment, on dirait que c'est quelque chose qui revient un peu trop.
Ouh, réducto ad Hitlerium, quand tu commences à citer les nazis pour essayer de te sortir d'une situation difficile, t'es rendu assez bas, merci.
Ben, c'est des choses qui arrivent, je pense, très fréquemment, surtout qu'on dirait que c'est facile de faire ça avec l'Allemagne. Évidemment, Berlin a été très, très fâché de ces accusations-là.
On les comprend.
Oui. Et ils ont quand même invité la Turquie à rester calme dans la situation. Puis, vers la fin du mois de mars, donc plus récemment, Merkel a expliqué qu'elle n'accepterait pas la venue des politiciens turcs en sol allemand. Donc, par le fait même, elle a menacé la tenue du référendum en Allemagne si la Turquie ne répondait pas aux critères en matière de sécurité et d'ordre public, et ce, autant lors du référendum que lors de sa préparation, donc dans les jours qui vont venir.
Oui.
Ankara, la capitale turque, a répondu à la menace en annulant toutes les apparitions prévues de ses ministres en Allemagne. Donc, pour le moment, il semble avoir rien de nouveau entre les deux pays, mais je pense que ça va beaucoup se jouer dans les prochains jours à l'approche du référendum.
Puis en terminant, il y a des implications très, très grandes de ces relations-là entre la Turquie et l'Allemagne, mais aussi entre la Turquie et l'Union européenne au grand complet. Donc, est-ce que c'est le cas pour ce conflit-là? Est-ce que ça a des implications plus grandes?
Bien évidemment, c'est sûr que, pour être concise, j'ai parlé un peu plus de la relation entre l'Allemagne et la Turquie, mais les relations diplomatiques, ça implique toujours plus de deux acteurs, bien évidemment. Donc, c'est sûr que ça va rejoindre aussi toute la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne la Turquie qui essaie d'adhérer à l'Union européenne depuis déjà quelques temps. Au-delà de ça, il y a également l'enjeu entre la position de la Turquie qui essaye de trouver sa place entre l'Orient et l'Occident, entre deux cultures finalement. Il faut aussi qu'il y a d'autres acteurs et d'autres intérêts en jeu dans le conflit, surtout en ce qui concerne par exemple le cas de la minorité kurde en Turquie qui est appuyée par un pan de la population allemande. Donc il faut vraiment élargir, je pense, l'enjeu entre l'Allemagne et la Turquie.
Oui, surtout que la Turquie est positionnée géographiquement assez en plein dans le chemin des migrants, qui fuit la Syrie, qui fuit ces zones-là touchées par la guerre. La Turquie aussi a des relations tendues avec la Russie, donc c'est vraiment un conflit très tentaculaire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup, Catherine.
Ça me fait plaisir.
Donc maintenant, on va se quitter en chanson pas trop longtemps. On va écouter une chanson un peu dans la thématique d'aujourd'hui. C'est la chanson « Du pouvoir » de l'artiste Allo Mode. Vous avez écouté « Du pouvoir » de l'artiste Allo Mode. Pour continuer dans cette tendance de parler des grands politiciens qui veulent s'accaparer plus de pouvoir, on a Étienne Tardy-Paradis en deuxième partie d'émission. Donc Étienne, tu vas nous parler un peu de la couverture médiatique de ce conflit-là entre la Turquie et l'Allemagne.
Oui, absolument. Alors bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais prendre quelques secondes pour faire des remerciements, puisqu'il s'agit maintenant d'une tradition lors de mes chroniques de saluer les grands de ce monde. Alors merci au gouvernement de Philippe Couillard de sa générosité envers les compagnies, envers la compagnie de Bombardier. Générosité qui, évidemment, est possible grâce aux Québécois et Québécoises. Merci également aux dirigeants de Bombardier d'avoir l'amabilité de retarder une partie de leur augmentation de salaire, chose que les 7000 anciens employés de cette même compagnie ne pourront faire dans les prochaines années.
Pourquoi donc, ils pourront pas le faire?
Ils ont été renvoyés, si je ne me trompe pas.
Je pense pas que tu te trompes.
Donc, merci au peuple québécois de bien vouloir jouer la tête de Turc des dirigeants de Bombardier et du gouvernement québécois. Maintenant, transportons-nous vers la Turquie et l'Allemagne, où les populations respectives de ces deux pays sont témoins d'une crise diplomatique. Cette dernière prend racine à travers une multitude de sources, telles que Catherine nous l'a expliqué précédemment. Cela dit, je vais m'intéresser lors de cette chronique au traitement fait par les médias allemands et turcs des troubles diplomatiques que les deux pays traversent, ainsi que la relation que les médias entretiennent avec leurs gouvernements respectifs. Pour ce faire, je vais découper mon intervention en deux temps. Premièrement, je vais aborder la vision des médias allemands sur la crise diplomatique et les rapports qu'ils partagent avec le pouvoir en place. Deuxièmement, je vais traiter de la relation houleuse des médias turcs avec le gouvernement Erdogan et puis de leur point de vue sur la crispation des relations diplomatiques avec l'Allemagne.
Étienne, je dois t'arrêter tout de suite. C'est quoi le rapport avec ton introduction de Bombardier et le gouvernement québécois et le sujet de ta chronique?
Bien heureux que tu poses la question, Émilien. C'est très simple. Je voulais simplement suggérer que parfois la population d'un pays est utilisée à son insu afin de servir l'intérêt des plus puissants de ce monde. Dans cette optique, il est possible que les médias allemands, comme les médias turcs, soient utilisés malgré eux pour mousser l'intérêt de certaines personnes. Ceci étant dit, lançons-nous au cœur du sujet. Depuis 1999, la Turquie est officiellement candidate pour adhérer à l'Union européenne. Cependant, plusieurs pays éprouvent des réticences à cette perspective.
Oui, notamment, je pense qu'il y a une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont jamais reconnu le génocide arménien.
C'est une des raisons. Il va y avoir d'autres raisons, mais effectivement, celle-là est une grosse. L'Allemagne fait partie de ceux-ci, évidemment, et cette position est largement reléguée par la presse allemande. En effet, il est possible de voir que dans les grands quotidiens nationaux allemands tels que le Die Welt, le Die Zeit et le Der Freitag.
Freitag.
Ouais, désolé pour mon allemand. J'espère qu'il n'y a aucun allemand qui nous écoute en ce moment.
J'espère qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment.
Ouais, il faudrait qu'il apprenne le français d'abord, ce qui est quand même une langue couramment parlée en Allemagne.
J'ai des petites notions si vous voulez, je vous en donne.
Moi aussi, j'ai des petites notions, j'en ai fait au cégep.
Cool. De l'allemand de cégep, c'est toujours excellent ça. Donc, une critique, ces journaux-là vont toujours faire une critique constante de l'incompatibilité de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne pour des raisons de religion, d'impact démographique, d'enjeux géopolitiques, de potentiel économique et surtout d'immigration.
Oui, c'est la raison principale. Mais est-ce que cette critique médiatique joue à l'avantage de la chancelière Angela Merkel?
Autre question pertinente, Émilien. Vraiment, merci pour tes interventions. oui, car la chancelière ne voit pas d'un bon œil une possible réouverture des négociations sur l'adhésion de la Turquie. Adhésion qui entraînerait certainement une augmentation de l'immigration turque vers l'Allemagne. Depuis, il faut savoir que les derniers sondages donnent la population allemande dans une majorité en désaccord avec plus d'immigration sur leur sol. Donc, sondages qui sont d'autant plus importants puisque le pays connaîtra des élections en septembre 2017.
Oui, puis il paraît que Merkel est un petit peu en arrière dans les sondages.
Ouais, mais elle va remonter, je suis persuadé. Après, elle tient le pouvoir depuis déjà une bonne décennie.
On fera nos pronostics là-dessus.
Excellent, les paris sont ouverts, appelez-moi. Donc, autre événement qui sera fortement critiqué par la presse allemande, le putsch raté en Turquie. Plus précisément, il s'agit en fait de la gestion de l'après-crise par le gouvernement turc. On parle ici d'arrestations massives, de purges au sein du gouvernement, chez les militaires ou encore dans la société civile. Donc, une grande majorité des médias allemands vont pointer du doigt les nombreuses violations des droits de la personne et une mise au rencor de l'état de droit.
Oui, puis c'est à se demander aussi si ce coup d'état-là qui a tellement profité à la plus grande prise de pouvoir de ce cher Recep Tayyip Erdogan, faut-il le dire. Donc, ça lui a peut-être profité plus qu'il le fallait. Est-ce qu'il est peut-être derrière tout ça? Je le sais pas. Mais j'écoute ce que tu me dis, puis j'ai l'impression que toute la presse allemande est comme un gros bloc, ils sont comme tous du même avis.
En fait, il existe des journaux aux opinions divergentes, mais ceux-ci ont une influence moindre à la chaîne nationale. Donc la tendance est majoritairement dans la condamnation des actions qui sont faites en Turquie. Cependant, si nous traversons du côté turc, une autre dynamique est à l'œuvre. Depuis quelques années déjà, le journalisme en Turquie est la cible d'importantes pressions de la part du gouvernement d'Erdogan. Erdogan, pardon, toujours aussi difficile de le prononcer.
Erdogan.
Ouais, mon turc aussi est vraiment... D'ailleurs, il faudrait que j'aille à Istanbul pour le pratiquer un peu. Donc, la liberté de presse a été mise à mal plusieurs fois, comme je le disais. Les grands médias turcs qui se posent au président et à ses dérives autoritaires se comptent sur les doigts d'une main maintenant. Les médias sont au cœur de la tempête politique qui touche la Turquie, mais en 2016, le président Erdogan a lancé une offensive de grande ampleur contre les médias défavorables à ses idées.
Sans compter la censure de Twitter, sans compter la censure de l'Internet, etc.
Mais après, qui a besoin de Twitter, je veux dire, tu sais?
C'est ça, ça fait tellement 2011,
ouais,
le Twitter.
Vraiment, tweetez-nous là-dessus, d'ailleurs. Donc, offensive qui est lancée quelques jours après le coup d'État manqué, cet événement est un point de rupture, car il accentue de manière importante l'influence du président turc sur les médias, qui de plus en plus se conforment à sa vision, soit par autocensure ou par pression externe. De plus, les partisans du président turc harcèlent fréquemment les membres des médias qui dénoncent certaines pratiques de celui-ci. Donc, de manière générale, les médias anti-Erdogan sont de plus en plus marginalisés au profit des médias pro-Erdogan.
Dans cette optique-là, comment les médias turcs traitent des relations houleuses, justement, entre la Turquie et l'Allemagne? On veut savoir, on veut connaître leur point de vue.
Eh bien, il est possible de voir un clivage entre les médias, justement, pro-Erdogan, qui vont vivement critiquer le gouvernement d'Angela Merkel, et puis les médias anti-Erdogan, qui ont des propos plus nuancés, soit qui vont condamner ou ne condamneront pas, ou vont mettre de l'avant le rôle que le président turc joue dans ces relations. Donc, en ce sens, les journaux en faveur des mesures gouvernementales ont tendance à suivre la ligne dure du président, et cela amène à une exacerbation de l'opinion publique envers l'Allemagne et donc donne de la légitimité aux actions du gouvernement islamo-conservateur. Pour terminer, j'aimerais poser une question d'intérêt général à tout le monde ici. Est-ce que vous pensez que le traitement journalistique dans chacun des deux pays peut avoir une influence directe sur les relations diplomatiques entre la Turquie et l'Allemagne?
Est-ce que les médias ont autant de pouvoir? Qu'en pensez-vous?
Ben, moi, je dirais oui. Si on regarde justement la caricature avec Angela Merkel, nazie, ça a eu des répercussions. Il y a eu des prises de parole ensuite par différents politiciens allemands pour parler justement de cet événement-là. Donc, moi, je pense que oui.
Moi aussi, j'aurais tendance à dire que oui. D'ailleurs, on parlait de... En fait, Étienne, tu parlais de... du putsch qui a permis de renforcer justement les assises du président turc. Je vais essayer de prononcer son nom, comme ça je vais pas me tromper. Puis j'ai l'impression que les médias, en se faisant censurer ou en s'auto-censurant, vont justement renforcer dans le même ordre d'idée les assises du président. Et vont faire en sorte, en fait, que ça va avoir des répercussions sur la politique interne des pays qui, après ça, ça va avoir des répercussions sur la politique extérieure des pays, notamment, justement, après ce qu'on vient de voir sur les relations entre l'Allemagne et la Turquie.
Des réflexions intéressantes. Merci beaucoup, Étienne.
Ça fait plaisir.
Vous écoutez toujours La Faute aux médias sur les ondes de choc.ca. En troisième et dernière partie d'émission, nous avons un troisième chroniqueur, Édouard Germain, toujours sur la même thématique, les relations qui sont tendues entre l'Allemagne et la Turquie. Donc Édouard, toi, tu t'es penché plutôt sur la couverture médiatique de ce conflit-là en Amérique du Nord.
Oui, en effet. Puis en fait, je précise Amérique du Nord parce que au départ, je voulais m'intéresser plus à la situation au Québec. Mais comme vous pouvez vous en douter, au Québec, je me suis vite retrouvé devant des articles qui avaient été écrits par les Reuters, Agence France-Presse et Associated Press de ce monde. Tu sais, quand on voit quand on voit en fait l'importance que l'actualité internationale ici au Québec, il y a rien d'étonnant là-dedans. Je suis tombé sur quelques articles que Radio-Canada avait écrits, mais ça résumait pas mal ce qu'on a entendu ici à l'émission depuis le début. Par contre, j'ai trouvé des trucs assez intéressants dans le Rest of Canada, notre merveilleux reste du Canada, qui en fait a écrit un peu plus là-dessus dans un article du Globe and Mail. J'ai trouvé un court éditorial assez intéressant qui s'appelle « Turkish President Erdogan shows his autocratic nature and a Canadian suffer ». En fait, on nous parle ici d'une jeune Canadienne, Madame... excusez-moi encore, notre accent, c'est le thème du jour aujourd'hui, Ece Eper, en fait, une Canadienne d'origine turque qui s'est retrouvée à avoir des démêlés avec la justice en Turquie à cause de propos qui ont été tenus sur Facebook, en fait.
Comment est-ce que tu peux inculper quelqu'un pour... pour avoir tenu ce genre de propos-là?
Ben, figurez-vous qu'en Turquie, il existe un crime qui s'appelle le lèse-majesté. C'est un crime qui existe un peu partout dans le monde. C'est en fait appel au, atteinte au souverain ou insulte contre le président, si vous voulez. Là.
Puis qu'est-ce qu'elle a dit exactement?
C'est même moins grave que ce que je pensais. Elle a écrit sur la page Facebook d'une amie que le président avait fait emprisonner des reporters qui auraient spéculé sur la possibilité que le gouvernement turc donne son appui à l'État islamique. Donc, dans le fond, on s'entend que on n'est pas ici devant... L'éditorial disait peut-être qu'elle aurait dû faire preuve d'un peu plus de prudence puis pas l'écrire même devant tout le monde, mais on s'entend qu'elle était canadienne, elle était habituée d'écrire probablement ce genre de trucs-là, ce genre de commentaires-là, pas en privé.
En même temps, elle a pas à avoir peur si elle a rien à cacher, n'est-ce pas?
Non. Mais bon, dans ce pays-là, c'est pas comme ça. Mais bref, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé dans cet article-là, c'est surtout la conclusion, en fait, parce que on expliquait qu'il y a pas si longtemps, on pensait encore que l'Occident, du côté de l'Occident, on pensait encore que la Turquie irait vers un modèle démocratique plus occidental. Puis, comme ça a été mentionné, tu sais, on pensait qu'il allait avoir une adhésion à l'Union européenne. Puis, on est forcé de constater qu'aujourd'hui, on est assez loin de ça. On est assez loin de cet effort-là.
Oui, on s'entend. Puis, plus ça va, plus on se dit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne, mais en même temps, il prend de plus en plus de place dans son pays, puis il a de plus en plus la main sur le pouvoir, puis il sera pas délogé de sitôt.
Non, effectivement. Puis même du côté des États-Unis, j'ai trouvé un autre éditorial du New York Times cette fois-ci qui dénonce en fait sans hésiter cette dérive autoritaire-là, et qui parle aussi de la stratégie d'Erdogan, parce qu'en fait, selon eux, Erdogan utilise cette espèce de conflit-là avec l'Allemagne pour mousser sa popularité auprès de sa population. Parce que, en fait, on est dans une époque où on veut que les pays soient de plus en plus indépendants, qui prennent de plus en plus de place. D'ailleurs, là, j'ai vraiment pas envie de faire encore de moins bien prononcer des termes. Donc, je vais traduire ce que je voulais vous dire, ce que le président a dit. Il aurait dit « La Turquie n'est pas là pour servir personne ». En fait, c'est assez clair. Erdogan, en fait, ne semble pas vouloir s'aligner vers cet l'ensemble qui est l'Union européenne en ce moment. Puis, il semble vouloir prendre plus d'indépendance, en fait, face à une espèce de montée du nationalisme qu'on peut observer un peu partout dans le monde.
Oui, puis le discours de nationalisme est vraiment à l'ordre du jour. Quand on entend le discours de la droite pro-Brexit en Grande-Bretagne, Marine Le Pen en France, Donald Trump, etc.
Oui, c'est intéressant que tu soulignes ça par rapport à Donald Trump, parce que c'est de ça que je voulais vous parler pour conclure ma chronique. En fait, j'ai trouvé un autre article qui était dans le Washington Post qui parlait en fait des différentes cordes sensibles entre les deux pays, entre les États-Unis et la Turquie, à l'aube d'une rencontre qui a eu lieu en fait la semaine dernière. On parlait en fait de la rencontre entre Rex Tillerson, qui est secrétaire d'État américain, et son homologue turc. Puis on sait que pour différentes raisons, la situation est pas optimale entre les deux pays. On pense notamment à Fethullah Gulen, qui est soupçonné par le régime turc d'être à la base du coup d'État, derrière le coup d'État qui a eu lieu l'année dernière, le coup d'État raté, pardon, de l'année dernière. Et Gulen est en Pennsylvanie depuis une vingtaine d'années, donc on demande son extradition depuis un petit bout, mais jusqu'à tout récemment, on s'opposait assez fermement à cette extradition-là.
Et en 30 secondes, oui. Je veux vraiment t'entendre, oui. Est-ce que l'arrivée de Trump vient changer quelque chose? Si tu pouvais résumer rapidement.
Ben oui, parce qu'en fait, très rapidement, le Michael T. Flynn, dont on en parlait énormément récemment, parce que, bon, bref, pour son rôle qu'il joue auprès du président, aurait rencontré des certains dignitaires turcs pendant la campagne de Trump pour parler de la possibilité de livrer Erdogan. Bref, pour conclure très, très rapidement, là, je dirais que le point de vue des médias ici en Amérique du Nord est plus favorable au point de vue qui est européen, allemand. Puis on n'hésite pas à prendre les plateformes éditoriales, en fait, pour défendre cette espèce d'idéal démocratique occidental.
C'est ça, parce que la presse allemande, on la croit plus indépendante que celle contrôlée par le président turc.
Ah, totalement.
Merci beaucoup, Édouard. C'était Édouard Germain, Catherine Boucher ainsi qu'Étienne Tardy-Paradis. Vous écoutiez La Faute aux médias. Je vous laisse rapidement avec une chanson L'éclaircie pour le retour des beaux jours de l'artiste Maison Brume sur leur album Les saisons d'être, chapitre 1, Carnet d'hiver.